Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les idoles de la critique, j'ai nommé Armel Héliot du Figaro, Fabienne Pascaud de Télérama, Jacques Merson de l'Obs et Vincent Josse de France Inter, le grand atelier que vous écoutez, j'espère, comme nous tous le dimanche après-midi. Et je suis ravi aussi d'accueillir là, notamment dans le public, la seconde B du lycée François Monsard de Saint-Maur-des-Fossés. Dans l'émission de ce soir, eh bien, ça va être très varié puisqu'il sera question de Danny Boone, d'Hervé Guibert, de Philippe Claudel, de Bergman, d'Emmanuel Berco, d'Amérindien. C'est dire si le programme effectivement est varié. Dans le courrier de la semaine, eh bien, Philippe Chavernac nous écrit à propos de l'école des femmes montée à l'Odéon par Stéphane Braunschweig. Je suis entièrement d'accord avec Jacques Nerson. Faut-il à tout prix mettre un élément de la modernité pour actualiser un classique de notre répertoire? La langue de Molière est magnifique et toujours universelle. Elle aurait mérité un tout autre traitement. Et pour Fabienne Pascaud, Molière, non, n'est pas misogyne, ou alors qu'elle cite ses sources.
Il ne l'est pas plus que son époque, le XVIIe siècle, il était beaucoup, mais enfin, des précieuses ridicules aux misanthropes, aux femmes savantes, il y a quand même pas mal de personnages féminins qui sont ridiculisés. Donc franchement, si Molière est un peu misogyne.
Et Jean Tardy, lui, il a aimé La machine de Turing de Benoît Solès au Théâtre Michel. Pièce formidable, portée par une interprétation extraordinaire de Turing. En l'occurrence, c'est le même Solès qui joue ce rôle. Sans oublier la scénographie très réussie. Laissez l'épice froid de côté et courez-y. Mais au contraire, Eric Santoni nous dit... À la suite de votre dernière émission consacrée au théâtre, j'ai décidé d'aller voir La machine de Turing. Honnêtement et malheureusement, j'ai beaucoup souffert. C'est du bon boulot, mais c'est loin d'être du chéreau. Trop de cris, trop de bégaiements, trop de dialogues plats, trop de rôles joués par un seul homme, trop d'efficacité dans les décors, trop de costumes étudiés, trop de tout. Et puis encore Pierre Cusor qui nous parle d'un spectacle qu'on va évoquer ce soir, qui est Canata de Robert Lepage. Eh ben lui, il est très déçu. Une orgie de décors pas toujours nécessaire et un texte faible pour une interprétation parfois proche de l'amateurisme. Ce spectacle dont la forme est admirable parfois n'a aucun fond. On va en parler dans quelques instants. Enfin, un message personnel de Michel Tolila. Madame Armel Héliot, dont nous apprécions l'honnêteté et la grande culture théâtrale, nous a profondément blessés en faisant un long panégyrique d'une de ses voisines qui, dit-elle, va régulièrement au théâtre. Madame Héliot sait pourtant qu'elle a d'autres voisins qui vont souvent voir des pièces que parfois elle-même a recommandées, mais évidemment, son combat féministe lui a fait privilégier sa voisine au détriment des voisins hommes. Et c'est signé Gilles et Michel qui sont très tristes.
Alors, je ne sais pas. Ils sont très tristes, mais ils sont là ce soir même.
Comment ça, ils sont là ce soir?
Ils sont là ce soir au balcon, là, au premier
ah oui,
rang.
Ils sont au balcon. Donc vous n'êtes plus tristes, Gilles et Michel? Non. Voilà. Mais en fait, si je comprends bien votre message, Armel, elle file des places à sa voisine, mais pas à vous. C'est ça, en gros, non? Non, c'est pas ça.
Oh non, ils sont abonnés partout, ils vont partout.
Tu vas nous amener tout ton immeuble?
Bah, why not? Ça serait bien.
Allez, on commence avec le spectacle qui va faire un malheur, évidemment. C'est 8 € de l'heure, la nouvelle pièce de Sébastien Thierry. Je vous rappelle Momo, deux hommes tout nus, entre autres. Et là, c'est au Théâtre Antoine, mise en scène par Stéphane Hillel, avec Danny Boone et Valérie Bonneton, couple provisoire, je le dis, couple de lancement. puisqu'en avril, ils seront remplacés par Stéphane de Groot et Barbara Schulz, soit donc un couple, Jacques et Laurence, qui ont depuis 2 mois une femme de ménage mexicaine, Rosa, interprétée par Georges Calvo, qui m'a fait penser à une sorte de Michel Faux latino. Il est assez
incroyable. Plus trapu.
En plus trapu, oui. Or, cette Rosa n'a que des malheurs qui produisent aussitôt leur réplique dans le couple. Ça, c'est le principe de la pièce. Hein. Rosa a un torticolis, elle perd son portable, elle saigne du nez, et c'est ce qui arrive aussitôt à Laurence, où Rosa est virée par ses nouveaux patrons, et Jacques est aussitôt menacé de licenciement. On peut, évidemment, on va éviter en tout cas de raconter la suite, c'est-à-dire comment le couple va tenter d'échapper à cette malédiction. José, moi j'avais quand même, Vincent, je t'avais quand même...
J'étais devant toi.
À l'oblique et je t'ai vu rire.
Ça te surprend, hein? Oui, c'est vrai, je comprends que ça te surprenne parce que je suis souvent très sévère, moi, avec Sébastien Thierry. C'est pas une façon de voir la vie, la société et d'écrire qui me passionne, moi, au théâtre Sébastien Thierry. C'est quelqu'un qui s'intéresse au décalage. Ça commence comme une situation tout à fait réelle, puis ensuite il prend un pas de côté, etc. Et il va souvent dénoncer les conventions bourgeoises, les choses attendues, les choses toutes faites, tout ça. Donc ça, c'est pas inintéressant, mais il a quand même, je trouve, parfois un petit côté réactionnaire qui, moi, ne me fait pas rire. Alors là, on retrouve un peu cette patte, hein. On va bien rire du gros travesti
ah bah,
mexicain.
Déjà là, t'en dis beaucoup parce que...
Ah pardon, ah, bon, non, bah, j'en dis beaucoup, je ne raconte pas qu'à la fin il meurt. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Non, mais c'est un peu quand même le secret de la pièce.
Non, pas du tout, mais non, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller quand même. Ce que j'ai pris comme plaisir, plus que d'habitude, et c'est pour ça que j'ai ri, et je reconnais tout à fait avoir ri parfois, c'est qu'il y a un plaisir de comédien. C'est un couple qui se connaît bien maintenant, Bonneton et Daddy Boone, et ils fonctionnent très bien. Moi, ce qui me touche chez Daddy Boone, y compris quand il joue Sébastien Thierry, qui n'est pas mon auteur préféré, c'est qu'il garde toujours quelque chose de l'enfance et de la panique de ce qui peut se produire dans la vie.
Qui est plus chez lui que chez elle, je trouve.
Oui, elle incarne une bourgeoise qui va dévoiler son jeu, si je puis dire, plus tard, mais pas tout de suite. Et elle le fait bien aussi, elle est très à l'aise. Et puis le duo est assez remarquable. Donc, pour le plaisir qu'on prend à les voir vivre sur scène et être heureux d'être ensemble, ça vaut la peine 8 euros de l'heure.
Et puis, c'est quand même une manière de démontrer qu'on peut être généreux par égoïsme, qui n'est pas totalement, à mon avis, hors actualité.
Mais c'est pas une démonstration hyper convaincante non plus.
Armel.
Moi, pour dire la vérité, j'ai été déçue par cette pièce. Je trouve que toujours le même mécanisme, toujours une impulsion surnaturelle, des miracles ou des faits qui nous inquiètent, et l'auteur ne nous donne jamais la solution. Dans toutes ces pièces, c'est comme ça, dans toutes ces pièces, ça finit en queue de sirène, il n'y a pas de résolution des mystères qu'il injecte dans une vie quotidienne. Et c'est vrai qu'au théâtre, on a envie qu'on nous raconte une histoire bien ficelée et qu'à la fin, on a la solution. On est la solution. Parce qu'autrement, c'est trop facile. C'est comme un petit sketch et puis je m'en fous de la fin.
Mais moi, je l'ai plus vue comme une fable, cette pièce, pas comme un...
Oui, alors vous,
elle se voit pas ni réaliste, ni... C'est une fable, oui, c'est une...
On peut la prendre comme ça. Et ce qui est certain, c'est que on attend surtout, évidemment, Danny Boone. Enfin, moi, j'attendais surtout Danny Boone.
Depuis 10 ans.
Et je dois dire que j'ai été admirative du travail, de la finesse, de la sorte de candeur qu'il met dans cette panique qui le saisit lui aussi, parce que la maladie de sa femme, si j'ose dire, le fait que tout se réplique, ça lui arrive à lui aussi, et il ne sait pas comment faire. Lui, c'est son travail qui est en jeu. C'est aussi une histoire beaucoup plus simple et un peu psychologique, minimal, de couple qui ne s'entend plus, qui n'a plus rien à faire ensemble. Bon, tout ça est gentil, mais j'aurais aimé un peu plus de... Ouais, c'est ça, une résolution.
Fabienne.
Ah, moi, j'ai trouvé la pièce très, très faible. Pour moi, c'est un sketch un peu allongé, avec toujours, comme le disaient mes camarades, cet art qu'a Sébastien Thierry de toujours très, très bien commencer, mais de ne jamais savoir finir. Donc, il part, il mélange l'absurde.
C'est vrai que la première partie
est meilleure.
Est bien meilleure.
On rit d'ailleurs.
Bien sûr, on rit.
Dès que ça tourne à la morale.
Exactement.
Ou à l'apologue,
la situation est farfelue, un peu absurde, un mélange de Ionesco, de Fedot. Et et puis après, là, qu'est-ce que ça veut dire au fond? On retrouve toujours, parce qu'il est méchant, Sébastien Thierry. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie.
Il est très misogyne aussi.
Il est, dur, il est cynique. Ah, si. C'est ce qui fait son charme parfois, mais enfin, c'est troublant quand même cette.
De quoi, sa misogynie?
Non, sa morale, parce que morale. Ça veut dire que finalement, les gens qui sont généreux, ils le sont par égoïsme et par narcissisme, et que toute la générosité aujourd'hui, eh bien, finalement, on ne le fait que par intérêt. Donc, dans les temps qui courent, je trouve que ce discours permettrait de ne pas être généreux sous prétexte de ne pas être égoïste. Donc je trouve ce message très confus. Et c'est vrai que Danny Boone est très bien, mais j'ai trouvé que Valérie Bonneton en faisait des kilos pour
suivre,
être à sa
hauteur. Oui,
oui. Elle force. Et puis enfin, le monologue final de la pauvre femme seule, pas baisée par le mari, tout ça.
Oui. C'est Fabien.
Non, on ne va pas non plus révéler l'épilogue.
Eh ben non.
Hein?
Eh ben non.
On l'a pas fait d'ailleurs.
Jacques n'y est pas allé. Je crois qu'il était chez le dentiste hier soir, donc il n'a pas pu voir. 8 € de l'heure. Et c'est Sébastien Thierry et c'est au théâtre Antoine. Au programme de ce soir, j'ai aussi inscrit une pièce que vous avez bien failli ne pas voir tellement le théâtre des nouveautés s'est évertué à empêcher les critiques de venir. Le dernier argument qui était le plus risible, évidemment, c'était, puisqu'on me l'a dit, c'est complet. Il n'y a même pas un strapontin pour la presse. Bref, à force de compromis, si j'ose dire, vous avez pu voir Compromis, la première pièce du romancier et cinéaste Philippe Claudel, qui était l'invité d'ailleurs du Grand Atelier, Vincent, oui. Il y a 15 jours. La pièce paraît d'ailleurs chez Stock. C'est mise en scène par Bernard Murat, qui quitte pour l'occasion Édouard VII pour les nouveautés, avec un duo... Il faut dire sur le papier, assez surprenant, Pierre Arditi et Michel Leeb. Le premier, c'est Denis, un comédien médiocre qui vend son appartement. Le second, c'est Martin, dramaturge raté, qui vient épauler son ami de 30 ans à l'heure de la signature du compromis. Arrive alors l'acheteur, c'est Monsieur Duval, qui est joué par Stéphane Pezra, et qui, en fait, de compromis, assiste au règlement de compte entre les deux amis et qui est assez naïf, il faut dire, pour croire qu'il assiste, en fait, à une pièce de théâtre. J'oubliais. Ça se veut essentiel, ça se passe en mai 81, juste au lendemain du débat télévisé où Mitterrand a traité Giscard d'homme du passif. Là, vous y êtes allé, Jacques ?
Oui, j'y suis allé. Je le regrette un peu d'une certaine manière, parce que c'était franchement pas une très bonne soirée. J'ai eu l'impression de perdre mon temps. Il me semble que n'importe quel bouquin m'apporterait plus que ce que j'ai vu. Il n'y a pas de pièce, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que... D'ailleurs, c'est pas la première fois que Philippe Claudel écrit pour le théâtre. J'en avais vu.
On s'en rend compte en la lisant, d'ailleurs.
Oui. J'en avais lu une précédemment, qui était une scène de ménage interminable. Et il n'y avait pas d'évolution de la situation du début à la fin.
Mais non, mais c'est sa première pièce, ça.
La troisième.
C'est sa troisième.
Ah, c'est la troisième.
Oui, c'est sa troisième pièce.
Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, à la suite d'une dispute d'un mot malheureux, les deux personnages principaux ne cessent de se dire des horreurs tout au long de la soirée, sous le regard un peu étonné, un peu naïf de l'éventuel acheteur de cet appartement.
Enfin, qu'il n'arrive que dans la deuxième partie de...
Oui, mais la situation n'évolue pas. Il n'y a rien dans cette pièce. Il y a pas, et les dialogues, on ne peut pas dire qu'il y a énormément d'esprit. Il n'y a rien.
Et comment fonctionne le couple étrange Michel Leeb-Pierre Arditi ?
Mais il n'est pas si étrange, parce que Michel Leeb, on a vu ces dernières années qu'il était tout à fait capable de faire le métier d'acteur et de le faire très correctement. Mmh. Ce n'est pas les acteurs que j'incrimine. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont quand même une certaine expérience du métier. Ce n'est pas des débutants, Bernard Murat non plus. Comment ont-ils pu s'illusionner sur ce texte ? Ça, je comprends pas. Et le théâtre qui produit ça. Enfin, c'est absurde. Il y a quand même beaucoup de pièces intéressantes à lire et à monter. Pourquoi aller prendre celle-là ?
Fabienne.
Et puis vendre leur âme aussi, d'une certaine manière.
Comment
parce
ça,
que
vendre leur âme ?
Moi, il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est la contextualisation dans les années 81. Et les deux personnages sont présentés comme des socialistes patentés, oui. Qui croient en Mitterrand, qui disent que c'est un homme formidable, qu'enfin... la loyauté va régner
voilà, ils disent,
au
c'est
pouvoir.
C'est la fin des magouilles et la salle
rigole. Exactement, c'est la fin des magouilles. Et ils vont se révéler, eux, ces socialistes pur jus, de parfaites crapules. Alors que Pierre
On ne peut pas être crapule et socialiste ?
Bah, non, mais si c'est ça le message, et si c'est ce que Pierre Arditi, Bernard Murat...
Le message, Fabienne, comme bah, vous
c'est quand même, c'est quand même la dimension politique de la pièce que les socialistes sont au moins aussi pourris que les autres.
Dimension enfin, politique,
non. Bah, c'est quand même... Mais alors pourquoi avoir mis ça en 1981 avec ce type qui veut vendre son appartement alors qu'il est bourré de plomb, d'amiante, à un pauvre bougre qui est d'ailleurs formidable.
Moi, oui, il est formidable.
Heureusement qu'il est là.
Pesera, oui. C'est peut-être le meilleur des trois, parce qu'il fait bouger l'action. Et bon, Philippe Claudel, on sent qu'il est inspiré, c'est du vieux théâtre, il a été copié Nathalie Sarraud, Pinter, il essaye de raconter Yasmina Reza.
Citer de très bons auteurs. Alors...
Mais oui, mais il le fait mal, je vous ai dit copier.
Oui, copier
il le fait pas bien.
Tout,
c'est...
Il n'y a pas de talent, c'est tout.
Donc moi j'ai été un petit peu déçue.
Bon.
Je ne me suis pas ennuyée quand même.
Vincent,
ben, même réaction que Fabienne et Jacques. On applaudit la performance de Stéphane Pesera qui ne sert pas à grand-chose finalement, qui les écoute, qui les met en valeur, mais qui a un rôle extrêmement difficile. Il le fait merveilleusement parce que
on
regarde principalement Stéphane Pesera et peu les autres parce qu'il joue, j'allais dire comme d'habitude. Enfin, il n'y a pas une grande innovation dans le jeu d'Arditi, une grande recherche. Leb est un bon comédien, tu l'as dit. Il a déjà joué d'ailleurs du théâtre de Philippe Claudel. C'est Philippe Claudel qui est un bon romancier. Creuse l'humanité, l'inhumanité, le côté salaud qu'on peut avoir nous tous face à la vie et dans nos réactions. Il continue ce sillon-là, mais pas d'une manière intéressante et d'une manière parfois lourde. Je trouve qu'il n'y a aucune finesse dans ce qu'il écrit dans Compromis et que je pense à nos élèves de seconde qui nous regardent là et qui nous écoutent. Je peux pas conseiller cette pièce à un étudiant, à un lycéen.
Bah, d'autant que
commencer le théâtre par ça.
Vu le prix des places aux nouveautés, je pense pas que la
70 euros le carré d'or
du lycée de Saint-Maur-des-Fossés ira.
Ah, on peut trouver des places à 25 euros.
Oui, enfin, les voisins d'Armel Elio peuvent en trouver, pas cher. Mais en dehors d'eux, c'est difficile, Armel. Compromis.
Ouais, je partage complètement le sentiment de mes camarades. C'est étrange parce que Philippe Claudel pense avoir fait une pièce sur un thème qu'il pense ne jamais avoir été traité, pardon, une amitié qui se fissure. Or, c'est exactement, pour un oui, pour un non, c'est exactement art, c'est exactement beaucoup de pièces de théâtre contemporaines. Donc, il a une espèce de naïveté sur ce qu'il fait lui-même. Ensuite, effectivement, on ne comprend absolument pas pourquoi c'est situé en 1981. Alors, évidemment, on échappe au téléphone portable et tout ça, mais ça n'apporte rien. L'enfermement des deux personnages n'apporte rien. Ils ne sont pas très sympathiques.
Bon.
Or, ils viennent du monde du théâtre, puisqu'il y a un dramaturge, un comédien. Et heureusement que le monde du théâtre n'est pas si médiocre. Et puis, il m'a semblé qu'ils s'ennuyaient un petit peu, ces deux grands comédiens.
Eh bien,
et heureusement qu'effectivement, il y a Stéphane Pesera qui vient réveiller tout ça.
C'est Compromis. C'est de Philippe Claudel et c'est aux nouveautés. Pas de saison sans film porté à la scène. Cette fois, c'est Face à Face au théâtre de l'Atelier, l'adaptation par Léonard Maton du film de Bergman, sorti, je vous le rappelle, en 76, avec Liv Ullmann et Erland Josephson, et c'est l'actrice et réalisatrice Emmanuelle Berco, actrice de Mon Roi notamment, réalisatrice de ce formidable film qui était La Tête Haute, qui incarne Jenny et David Harribey, c'est le docteur Jacobi. Son mari est parti donner des conférences aux États-Unis, sa fille est en colonie de vacances et Jenny, donc, qui est psychiatre, c'est donc Emmanuelle Berco, se retrouve seule. Elle va se réfugier chez ses grands-parents. Elle est traumatisée par une tentative de viol. Elle avale des barbituriques et se retrouve à l'hôpital avec à son chevet un confrère et ami, donc Thomas Jacobi, qui sort, lui, d'une expérience homosexuelle malheureuse. Il faut ajouter à la distribution Evelyne Istria, Nathalie Kuznetsov, Lola Lelanne, Thomas Gendronneau, mais c'est évidemment, en tout cas, là je parle pour moi, Emmanuelle Berco, qui frappe dans sa manière de s'emparer de ce rôle si difficile de femme hallucinée en proie à des fantasmes terribles. Ça ne se joue malheureusement que jusqu'au 24 février. Je ne sais pas s'il y a une tournée qui est prévue pour ce spectacle, vous le savez, non les uns.
Je crois qu'il y avait une tournée.
J'espère en tout cas.
Oui.
Fabienne.
Eh bien, moi, pour moi, ça tient surtout grâce à Emmanuelle Berco, que j'ai vraiment trouvé magnifique, que j'avais déjà aperçu au théâtre dans un spectacle de Christine Angot, mais qui là porte ce texte de Bergman que personnellement j'ai trouvé un peu confus, qui est adapté du film que Bergman avait fait en 76.
Qui est fidèlement adapté du film d'ailleurs. Hein,
Fidèlement.
Fidèlement, ouais.
Mais alors, bon, le jeune metteur en scène veut nous faire pénétrer dans l'inconscient et dans les fantasmes, les rêves, rêve, la désespérance, la dépression de sa psychiatre. Alors pour ça, il abuse de scènes qui s'entrechoquent, de sons, de juxtapositions, de temporalités éclatées. Et je dois avouer que j'étais un peu perdue. Moyennant quoi, elle est tellement formidable, Emmanuelle Berco, qu'on plonge avec elle dans ses vertiges, dans sa détresse, dans sa souffrance, et que vraiment, c'est une odyssée dans une dépression dont on ressort pas indemne. Donc pour son jeu d'actrice, je pense que ça mérite d'y aller.
Armelle ?
Ah oui, je suis complètement d'accord avec Fabienne. Et c'est vrai, alors moi je l'ai vue au Plateau Sauvage, dans le 20e, au début de l'exploitation,
avant que ça n'arrive à l'atelier.
Et c'est vrai que là, c'était encore un petit peu confus, un peu long. Mais je sais que Léonard Maton, qui est un jeune homme rigoureux, a resserré le spectacle, a corrigé certaines scènes.
Ça reste assez long, hein.
Ouais, alors c'est ça. Moi, je l'ai pas vu à l'atelier. Mais Emmanuelle Berco, elle est absolument époustouflante. Elle est éblouissante. Parce qu'en plus, elle est dans une intériorité. Il y a aucune esbrouffe, il y a aucun effet. Elle est idéale, quoi. Elle est belle, elle est tenace, elle tient ce parcours de 2 heures avec une sincérité absolument extraordinaire et en même temps sans jamais basculer dans le pathétique.
Ce qui était le cas de Liv Ullmann.
Oui, absolument, qui était larmoyante et qui en rajoutait. Là, elle est d'une rigueur extraordinaire.
Bergman n'était pas content de Liv Ullmann, enfin de ce qu'il avait demandé à Liv Ullmann.
Je sais, elle était malheureuse, elle avait été malheureuse sur ce film.
Moi, j'ai été très ébloui par le spectacle et le grand mérite, à mon avis, de Bergman,
c'est de nous... Ennuyé.
Pardon, pas du tout, pas un instant. Le mérite de Bergman, c'est, à mon avis, de montrer une dépression sans appliquer de grilles freudiennes qui voudraient nous expliquer ceci ou cela, c'est parce que ma maman m'a fait ceci, mon papa m'a fait cela. Pas du tout. Là, il n'y a aucune explication psychologique. On est plongé avec le personnage dans la fosse au serpent. On traverse un enfer avec elle et Emmanuelle Berco est absolument remarquable. Mais j'ai été moi très très saisi, très ému par ce spectacle. Et puis il faut parler effectivement d'Evelyne Istrion.
Evelyne, oui.
Ravie de la revoir sur scène. C'est une de nos grandes actrices et on la voit pas assez souvent. Et voilà, c'est un spectacle qui m'a énormément touché.
Vincent, ouais,
je dois être un monstre froid.
Je pensais ça de toi depuis longtemps.
Je dois être un monstre froid parce qu'effectivement, je salue comme vous la performance d'Emmanuelle Berco, mais alors, je m'en fous complètement de sa dépression. Je suis resté à la porte, moi, de ce que veut dire Bergman. Je n'ai pas compris, d'ailleurs, 2 scènes sur 3. Je trouve que...
Mais il n'y a pas forcément à comprendre, il n'y a pas de...
Alors, si on ne comprend
pas... Est-ce que tu avais vu le film, Vincent?
Non, je n'ai pas vu le film. Mais je trouvais que ton résumé était fort clair, fort limpide, ce que n'est pas la pièce. On ne sait pas exactement quelle est la sexualité de l'un, de l'autre. On ne sait pas avec qui elle est. Est-ce qu'elle est en train de fantasmer, de cauchemarder?
Elle est en pleine hallucination, donc évidemment, ce n'est pas forcément...
Oui, mais tu ne repères pas les moments. Tu es assez perdu. Et du coup, je n'étais pas en empathie. J'admirais la performance de la comédienne, qui est une très bonne comédienne. Je l'avais jamais vue au théâtre. Bravo, Emmanuelle Berco. Elle sait faire plein de choses. Cette femme est passionnante. Mais je restais sans empathie. J'ai pas éprouvé d'empathie avec ce personnage.
En même temps, tu n'as aucun cœur, donc c'est pas non plus.
C'est peut-être que je me remette en cause sur ma monstruosité.
Je pense.
Mais à défaut de comprendre, on peut être ému et ça s'est pas produit pendant le spectacle. Alors j'étais malheureux justement de pas pouvoir être nersonien sur ce plan.
Eh bien, c'est donc à l'atelier face à face, c'est donc Bergman et Léonard Maton pour la mise en scène. Les Idoles, le nouveau spectacle de l'écrivain, cinéaste, dramaturge Christophe Honoré, qui a été créé à Lausanne en septembre dernier, qui est passé par Tarbes, par Marseille, par Douai, par Poitiers, qui vient de se donner à l'Odéon, qui sera mercredi et jeudi prochain, les 6 et 7, à la Comédie de Caen, le 14 et le 15 février à Montbéliard. Donc ça tourne toujours à travers la France, après avoir rassemblé au théâtre ses idoles du nouveau roman, qui était un spectacle assez étonnant, il faut dire. Christophe Honoré rend hommage dans un spectacle de 2h30 aux idoles de sa jeunesse. 6 artistes fauchés par le sida, ce qu'on appelait alors un groupe à risque. Le dramaturge Bernard Maricoltès, qui est incarné par Youssouf Ayad. Le cinéaste des Nuits Fauves, Cyril Collard, qui est joué par Harrison Arevalo. Le dramaturge Jean-Luc Lagarce, qui est joué par Julien Honoré, qui est le frère de Christophe. L'intraitable critique de cinéma Serge Danet, qui est joué par Jean-Charles Cliché. Le cinéaste Jacques Demy, dont je rappelle que le sida ne fut révélé que 18 ans après sa mort et qui est incarné ici par une femme tout à fait exubérante qui est Marlène Saldana. Enfin, dans le rôle central d'Hervé Guibert, Marina Foïs, dont le long monologue, je dois avouer, sur la mort de Musil, alias Michel Foucault, donne la chair de poule. Des jeunes fantômes donc qui hantent la scène, une sorte de hangar désaffecté qui pourrait être aussi un sous-sol de quai de Seine, avec parfois en voix off les propres souvenirs de Christophe Honoré. Vincent.
Ah, je suis content que tu me donnes la parole en premier.
Bah, je suis content de la donner, hein.
Oui, je sais. Tu sais être gentil.
Oui, je sais. Parfois.
Non, j'ai eu la chance, parce que j'interviewais Honoré, de voir le spectacle deux fois et de suivre les répétitions. Et plus je le voyais, et plus j'aimais ce spectacle. Par exemple, à Rennes, le public était debout. Il y a une standing ovation incroyable, essentiellement des jeunes étudiants. Alors, ça ne veut pas dire que parce que les jeunes se lèvent, le spectacle est formidable, mais toujours est-il que je suis allé leur poser des questions après, parce que je voyais qu'ils commençaient à acheter des bouquins de Lagarce, de Guibert, etc. Et la plupart ne connaissaient aucun des auteurs que fait revivre Christophe Honoré. Et ils disaient, mais on a envie de les connaître. Moi, je veux voir le film Les Nuits Fauves, disait une jeune fille. Je dis, vous avez quel âge? 25 ans. Parce que toute cette mémoire passe vite, c'est bien pour ça que Honoré, qui les a tellement aimés et qui les aime encore, s'il est venu à l'art, c'est sans doute grâce à eux.
Mais tu ne trouves pas qu'il manque à la pièce, si j'ose dire, du théâtre? C'est-à-dire qu'on a le sentiment...
Ah non, il est là, le théâtre.
Il est mal foutu, quand même.
Il est là, le théâtre, et le théâtre fait naître la vie. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi contemporain, d'aussi vivant. Il rend les morts vivants.
C'est quand même des monologues qui suivent la plupart du temps. C'est mal composé, mal structuré, c'est un peu long.
Il a toujours ce
talent. C'est le geste qui est beau, c'est l'idée qui est belle.
Le geste, c'est la réalité du plateau. Il réussit cette écriture de plateau, puisqu'il leur donne une masse comme ça de documents au départ.
Oh, mais l'écriture de plateau.
Il leur donne du Guibert, il leur donne du Lagarce, et puis ensuite, il les fait improviser, et il écrit le soir ce qu'ils ont improvisé, oui, ça, et ça devient un spectacle.
Ça,
oui, mais c'est sa technique. C'était déjà celle de Nouveau Roman.
Parce qu'on voit, attention.
Ah, moi, j'ai été complètement conquis par ça, parce que je n'arrivais pas à savoir ce qu'avait vraiment dit, par exemple, Hervé Guibert, de ce que rajoutaient les comédiens. Pour moi, leur fantôme était vivant sur scène. En ça, j'applaudis énormément.
Il y a des photos, il y a beaucoup de photos, il y a les noms qui s'inscrivent parfois.
Mais c'est surtout les acteurs sur le plateau qui font revivre les morts. Ce n'est pas tellement les photos, les sons, etc. Il y a aussi une utilisation très fine, très maligne de la vidéo. Moi, je trouve que la vie bouillonne sur scène, alors qu'on parle de mort. Vraiment, je suis très impressionné par le travail d'Honoré.
Il y a un numéro dansé de Marlène Saldana
qui est formidable.
Dans le rôle de Demi, qui est
actrice,
assez impressionnant.
Actrice,
hein.
Et quand elle évoque Stellor, c'est magique.
Moi, je trouve que le geste, l'entreprise de Christophe Honoré est formidable. Et c'est vrai de faire revenir ces divins morts qui sont là et qui nous racontent aussi la France un peu insouciante des années 1980 dont on a perdu le secret, le parfum.
Insouciante en même temps,
terrorisée.
Parce qu'il se passait. Hein.
Non, mais les années 80, avant que ne débarque le sida, c'était quand même des années où on avait plein d'illusions, où l'économie marchait.
Oui, mais là, c'est plus le début des années 90, je trouve.
Oui. Mais bon, bref, ce qui m'a un petit peu énervée, c'est qu'il a trouvé une grammaire dans le Nouveau Roman, en 2012, en faisant intervenir tous les chantres du Nouveau Roman. Il refait exactement la même chose, en reprenant des têtes d'affiche, des gens, des écrivains formidables, ou des essayistes, ou des cinéastes, il les fait parler à tour de rôle. Alors ça donne des numéros d'acteurs souvent éblouissants. C'est vrai que Marina Foïs est formidable.
À ce passage de l'extrait de À la nuit qui ne m'a pas sauvé la vie.
Et parce que c'est de l'écriture pure.
Et voilà, et il est assez habile pour faire jouer un homme, Hervé Guibert, à la beauté formidable. Il dit qu'il n'aurait pas trouvé d'acteur aussi beau par une femme. Donc ça, ce geste-là est magnifique. Mais sinon, c'est quand même très très mal foutu. Et
il y a quoi, des tunnels. En quoi, Fabienne?
C'est maladroit. C'est un truc après l'autre. Il n'y a pas vraiment de choses chorales. Il n'y a pas vraiment...
Ah, c'est sans arrêt. Outre quelques passages de monologue, c'est sans arrêt de la correspondance entre eux, de la circulation entre...
Je suis désolé, mais je ne pense pas que Christophe Honoré, là, fasse son vrai rôle d'auteur de théâtre. Et c'est quand même à ça qu'on a affaire. On a affaire à une espèce de collage, à une écriture de plateau, effectivement. Mais du coup, à part les passages... effectivement de Guibert, parce que Guibert est un grand écrivain, parce que ce livre est magnifique et à ce moment-là on est tout à coup saisi d'émotion, mais le reste du temps c'est très très pauvre. Il fait dire même parfois des choses très banales aux personnages qui...
Parce qu'il les fait être d'aujourd'hui, parler entre eux, avoir une complicité.
Je trouve pas ça très intéressant. Je trouve que j'aurais aimé un véritable auteur, encore une fois. Il y a besoin d'auteurs au théâtre.
Mais c'est un romancier sur le plateau.
J'avais beaucoup aimé beaucoup aimé Nouveau Roman, mais dans Nouveau Roman, il y avait une action, et cette action, c'était en sorte la campagne menée par Lindon pour imposer ses auteurs. Et donc, ça crée une sorte de mouvement dramatique. Là, il n'y en a pas. Ce sont des bavardages, il n'y a pas d'évolution. Ça n'est pas une pièce de théâtre. Et donc,
c'est
je suis
désolé,
je trouve ça fait faible.
C'est un montage de personnages magnifiques.
C'est un montage, c'est un collage, mais c'est pas une véritable pièce de théâtre.
T'as pas été ému? On parlait d'émotion tout à l'heure.
J'ai été ému si,
par ses renaissances,
deux fois,
par ses fantômes,
par Marlène Cerdana. Parce que je trouve que c'est une actrice.
Elle est formidable, Marlène.
Et que chaque fois qu'elle paraît, qu'elle danse ou qu'elle danse pas, je la trouve incroyable. Et puis, effectivement, par le passage d'Hervé Guibert.
C'est long, hein. C'est un long,
beau passage. C'est presque un quart d'heure, oui.
Oui, c'est un long passage. Mais voilà, justement, ça prouve bien que ça n'est pas une pièce.
Armel.
Et je vais redire, oui, parce que ce morceau de Guibert, c'est de l'écriture pure. C'est de la très belle écriture. Et c'est effectivement peut-être ce qui manque.
Et puis que c'est la mort de Foucault.
C'est la mort de Foucault.
C'est écrit comme la mort de Louis XIV par Saint-Simon. Hein,
c'est tumeur au cerveau, mais bon, voilà. Alors que on savait tous ce qu'il en était. Mais je comprends les réserves de mes camarades sur la construction, le côté un petit peu effiloché parfois, le côté collage peu assuré. Il n'empêche que moi, j'ai été saisie par l'émotion dès l'entrée, parce que les premières paroles, elles sont dites off, c'est un grand haut-parleur, c'est la voix de Christophe Honoré lui-même qui raconte comment un jour, alors qu'il n'avait à peine 20 ans, mais il vient à Beaubourg, il vient au centre Georges Pompidou.
Il vient de Bretagne.
Il arrive de sa Bretagne, où il ne connaît au fond que... Il a vu les films de Demy, il a envie de devenir cinéaste, il est taraudé par l'écriture aussi, et il arrive au centre Pompidou, et là il y a une soirée de danse, et il comprend que c'est un hommage à Dominique Bagoué, qui est mort quelques mois auparavant, un des premiers morts du sida de ces années, qui ont vu mourir tant et tant et tant de jeunes gens, tant et tant d'artistes, entre autres, mais pas seulement. C'était vraiment terrible.
On voit passer aussi dans le spectacle Rock Hudson, évidemment.
Oui.
Listellor
est formidable.
Qui fait prendre la partie. Renaud Camus,
oui.
Qui est passé du militant de Trix à celui de l'extrême droite qu'on connaît, oui, aujourd'hui.
Vous voyez, c'est très riche quand même. Alors, c'est vrai que peut-être ça aurait mérité encore plus de travail, encore plus d'écriture. Mais tel quel, moi, je trouve que c'est un hommage extraordinaire à la vie.
Les idoles.
Tous ces jeunes êtres, ces jeunes artistes, ils nous concernent encore.
Les idoles Christophe Honoré, donc, cette semaine à Caen et ensuite à Montbéliard. Retour à Reims, on n'est pas si loin dans une thématique qui pourrait être aussi un peu d'Honoré. C'est donc le livre, sans doute le plus personnel, qu'avait publié en 2009 le philosophe Didier Héribon. Il raconte, après la mort de son père, son retour dans sa ville natale, Reims, et pourquoi il l'a quitté 30 ans plus tôt. Un livre où il parle donc de ce père ouvrier qu'il n'a, dit-il, jamais aimé, de sa mère, femme de ménage, et du jeune fils de la honte qu'il était et qui a fui Reims à 20 ans au début des années 70 pour vivre librement son homosexualité à Paris et poursuivre ses études de philo. C'est ce livre que l'Allemand Thomas Ostermeier a choisi de porter à la scène. C'est à l'espace Cardin, il faut l'expliquer, l'annexe provisoire du Théâtre de la Ville, jusqu'au 16 février, puis il y a une tournée assez longue, dont je dirai un mot après. Tout se joue dans un studio d'enregistrement avec le preneur de son, Bled Alimbé, le réalisateur Cédric Écoute et l'actrice Irène Jacob qui enregistre le commentaire d'un documentaire projeté en arrière-plan de la scène et qui est la version cinématographique du livre de Héribon, c'est-à-dire le retour à Reims, puisqu'il rend visite à sa mère et qu'il évoque son adolescence en feuilletant un album de photos. Le texte est très fort, je trouve. Je suis très troublé, pour ne pas dire désappointé, par cette version scénique de ce texte d'Héribon. Jacques.
Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer Ostermeier et Héribon, et donc il m'avait expliqué un peu en cours de répétition.
Le procédé.
Le procédé. Et j'avoue que j'étais très sceptique. Connaissant le livre d'Héribon, c'est un texte assez difficile. Il y a effectivement des parties de récits autobiographiques, ce fameux retour à Reims, etc. Mais pour l'essentiel, quand même, pour 80% du livre, c'est un essai sociologique extrêmement intéressant sur la démission de la gauche par rapport à la classe ouvrière, etc. Mais je voyais pas tellement la théâtralité de ce texte. Et Ostermeyer, d'une certaine manière, est obligé de croire l'inventer, essaie de l'inventer, cette théâtralité. Alors d'abord, bizarrement, en tournant un documentaire, sauf que c'est pas un très grand réalisateur et que le documentaire est pas très bon.
C'est pas mal. Non. Belles images.
Non, belles images d'archives.
Non, c'est pas le problème du spectacle.
Mais si, c'est le problème du spectacle.
C'est pas la qualité du film.
À partir du moment où on montre quelque chose, je pense qu'il faut avoir un certain talent de cinéaste, qu'il n'a pas. Et puis, par ailleurs, il invente, là encore, il va nous manquer un auteur. C'est-à-dire qu'il invente, pour meubler le spectacle, il invente une discussion entre l'actrice qui est chargée d'enregistrer le commentaire du documentaire et le réalisateur du documentaire et aussi l'ingé son, qui est aussi le propriétaire du studio. Ben, malheureusement, ce que disent ces gens n'est pas toujours idiot, c'est pas la question, mais c'est du bavardage, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'action, et une fois de plus, ben, ça débouche sur un grand ennui, malgré l'intérêt profond.
Ça,
mais si, je le dis.
Si, Fabienne.
Sans
C'est un spectacle qui pétille d'intelligence de bout en bout.
Pardon ?
C'est un spectacle qui pétille d'intelligence de bout
Fabienne,
en bout.
On va dire que je vous donne la parole. Allez-y.
Non, moi, je n'avais pas lu le livre d'Héribon, je le dis, même si c'est un essai formidable qui date de 10 ans. Et donc, je suis arrivée complètement vierge et innocente devant ce spectacle. Mais oui, Jacques, je peux l'être aussi. Et donc, j'ai trouvé que le travail que faisait Ostermeyer était formidable parce que à partir de la biographie d'Héribon qu'on suit en images, et pour les gens qui ne connaissent pas bien son parcours, on le voit, il accepte de se montrer de retour à Reims, retrouver sa mère qui a un visage magnifique mais un corps complètement rompu par...
Elles sont belles ces scènes-là justement.
Elles sont très belles ces scènes-là. Oui. Elles sont magnifiques. Et donc par le biographique, il arrive à nous faire prendre conscience de toute la douleur d'un transfuge. Parce que finalement, Héribon s'interroge, il a moins de honte à être homosexuel qu'il n'a de honte d'être fils d'ouvrier. Et donc tout tourne autour de ça. Et qu'est-ce que c'était qu'être un fils d'ouvrier, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui
ça,
d'être un intellectuel?
Vous me racontez le livre.
Mais je n'ai pas lu le livre. Je n'ai pas lu le livre, je l'ai découvert. Et toutes les questions qui se posent là-dessus, c'est retranscrit admirablement dans ce documentaire.
Non.
Irène Jacob, mais je le connaissais pas ce bouquin, donc j'ai tout senti à partir de ce que j'ai vu sur scène. Irène Jacob, qui commande ce livre, qui lit les phrases d'Héribon, c'est déjà intelligent de choisir une femme pour jouer le rôle d'un homme. Ça introduit un décalage. Donc déjà, on réfléchit.
Je sais pas où vous placez les amis.
Héribon, il est dans les films, on n'a pas besoin de le voir sur scène.
Oui, mais qui pose des questions sur comment transmettre, comment dire. Enfin, moi, ce spectacle, je me suis dit, mais bon sang, le théâtre, quelle force qu'a le théâtre de pouvoir, via le corps de 3 acteurs, nous interroger sur la gauche aujourd'hui, sur les pauvres aujourd'hui, sur pourquoi les ex-gens de gauche tournent autour du Front National.
Lisez le bouquin.
Qu'est-ce que c'est que les gilets jaunes?
Eh
ben non, si je peux le voir en 1h30 incarné par des acteurs, je trouve ça magnifique.
Ça vous fait gagner du temps, c'est pour ça?
Moi, je suis très étonnée.
C'est magnifique, incarné. Le théâtre peut être un forum.
Lisez le bouquin, il est beaucoup plus riche que le spectacle.
Armel,
je suis très étonnée que Fabienne Pascaud n'ait pas été choquée par le montage des images d'archives de ce film, qui sont montées absolument n'importe comment, avec des mastiques, avec des sauts d'une époque à une autre.
Mais peu importe, Armel, c'est pas au cinéma qu'on va...
Moi, je pense, par exemple, à nos élèves, à nos lycéens.
Bah, ils seront contents de voir des tas d'images d'archives.
Il y a des images des années 30, puis après, il y a des images de 68, puis tout d'un coup, évidemment, les gilets jaunes. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était de la confusion gravissime. En plus, je suis complètement d'accord avec Jacques, mais la discussion qui a lieu entre le propriétaire du studio dont l'ancêtre a été tirailleur, a défendu la France, et que
tirailleur,
on entend Irène Jacob tout d'un coup dire « Ah bon, ton grand-père, il a fait la guerre ?» Mais où est-ce qu'on est? Dans quel...
On est dans le biographique qui devient politique.
Non, pas du tout. Le texte d'Héribon mérite
beaucoup
mieux.
Et c'est ça qui est beau.
Et de toute façon, il avait été adapté il y a déjà quelques années par Laurent Atta, d'une façon extrêmement sobre, avec juste la maman et le fils dans la cuisine. Et on comprenait beaucoup mieux et le désarroi et l'angoisse qui a pu être celle de Didier Héribon.
Cette question de la honte qui était...
La honte, la mésentente avec le père,
tout ça, on
le regret, le regret
d'avoir moi, je l'ai perçu,
terrain, c'est de pas s'être réconcilié avec son père, puisqu'il n'y retourne qu'une fois son père mort. C'est une tragédie moderne, la vie de Didier Ribon. En même temps, il a une grâce et une dignité formidables. Et tout ça est disloqué par un esprit fort qui est monsieur Ostermayer.
Moi, je trouve qu'Ostermayer vole. Le texte nous vole le texte des Ribon. Ah, ben, on est frustré de pas.
Enfin, vous n'êtes pas propriétaire d'un texte. Et mais ceux si, quand qui n'ont pas lu comme moi, on est content de le découvrir. Donc, ce
n'est pas bien. Quand tu lis, c'est à toi. Quand tu vois, c'est à toi ce qui se passe.
Oui,
c'est
mais tu n'as pas le droit de dire qu'il te vole un texte.
On a Ribon au début. Moi, j'étais plutôt, j'applaudissais plutôt au départ ce film et cette voix, cette très belle voix d'Irène Jacob. Je trouvais ça assez malin et je voulais savoir où il nous emmenait. Le problème, c'est qu'il nous emmène avec lui, avec sa pensée politique, en disant, mais moi aussi, j'ai des idées politiques et ça m'inspire des choses et que sa pensée est pauvre quand elle est exprimée. Vous parliez de manque d'auteur d'Honoré, je suis pas d'accord, mais là, Ostermayer n'est pas Brecht, quoi. Il se pose pas en tant qu'auteur avec une pensée politique qui serait nouvelle. Il nous dit quoi? Il nous dit que les
prétend
gilets jaunes...
Prétend nous faire réfléchir, il nous pose des questions comme un philosophe.
Qu'est-ce qu'il t'a apporté comme réflexion? Il te dit que les gilets jaunes ne sont pas tous Front National. Fabienne, tu le savais. Qu'est-ce qu'il te dit d'autre? Je ne sais pas les questions qu'il soulève en toi.
Il me pose des questions. Le théâtre, ce n'est pas fait pour donner des réponses, c'est fait pour poser des questions.
Dis-moi les questions qui sont posées à toi.
Moi, je n'ai pas envie qu'on me donne des réponses,
mais
je m'en fous.
Mais quelles
questions? Eh bien, les questions sur la politique d'aujourd'hui, sur le monde d'aujourd'hui.
Il dit que la gauche a échoué, qu'il y a beaucoup de Front National et d'extrême droite en Europe. Voilà.
Bon, allez, on arrête le jeu.
Et il le dit mal. C'est des scènes quasiment boulevardières auxquelles on assiste. Et pauvre. Et du coup, on sort frustré des Ribon.
Et Ribon et Ostermayer, il nous reste très peu de temps. Et c'est donc à l'Espace Cardin. Allez, rapidement, Kanata, épisode 1, La Controverse. C'est au théâtre donc du Soleil d'Ariane Nouchkin et dans le cadre du Festival d'automne. Le nouveau spectacle du Québécois Robert Lepage, un spectacle qui a failli ne pas voir le jour après la polémique lancée par des groupes d'Amérindiens reprochant à Lepage de raconter l'histoire du Canada et l'oppression subie par les Indiens sans qu'aucun acteur autochtone ne figure dans la distribution. Il s'agissait, selon eux, d'une appropriation culturelle et Nouchkin a choisi de ne pas céder devant ce qu'elle appelle, elle, un jury autoproclamé qui déclare nocive, culturellement blasphématoire, une œuvre avant même qu'elle soit née. Donc elle le présente, ce spectacle, à la Cartoucherie. Premier épisode, Kanata étant le nom qui est à l'origine du mot Canada. Un mot, mais rapidement, sur la polémique, et puis deux, surtout sur le spectacle qui tient à la fois du livre d'histoire et du polar. Vincent?
La polémique, je pense qu'il faut complètement l'oublier quand on va voir le spectacle et se laisser porter par les images de Lepage. Lepage, c'est pas un auteur de théâtre au sens classique du terme. C'est quelqu'un qui travaille avec le multimédia, quelqu'un qui fait du cinéma aussi et qui a un sens des images que personne d'autre n'a. Moi, j'ai toujours été épaté par le travail de Lepage. Je suis comme un enfant qui assiste à un conte, qui assiste à une fresque. Il m'emporte, il me fait vivre des histoires, certes, d'autochtones au Canada, mais pas, il me raconte pas l'histoire du Canada, il me raconte des aventures humaines. Il me raconte une femme qui a du mal à être amoureuse de son mari là où elle se trouve, pas dans sa patrie d'origine. Il me raconte une artiste qui n'arrive pas à créer, et quand elle peut créer, eh bien, ce sont les gens autour d'elle qui ne la laissent pas créer. Il me raconte énormément de choses, moi, spectateur, et je me laisse emporter, notamment par exemple, cette artiste, justement, cette femme artiste, prend de l'opium pour aller mieux. Elle est sur une barque avec un autochtone, comme on dit maintenant, devant la barque. C'est lui qui conduit la barque et la barque se retourne parce qu'elle est sous l'effet de la drogue. C'est totalement acrobatique et c'est surtout magnifique et poétique. Donc, on nage en pleine poésie. Je pense qu'il faut se laisser porter par ça et oublier cette polémique.
Oui, enfin, sauf que la polémique, je crois, a empêché, vous allez me dire si j'ai raison ou tort, la création du spectacle au Canada. Hein.
Oui, et puis même en
elle
France.
Elle a failli l'empêcher en France.
Oui, non, mais je veux dire, c'est pas. Ça n'est pas le spectacle de Robert Lepage, ça n'est pas les trois épisodes qu'on aurait dû voir.
Voilà.
Une histoire qu'il a mis 4 ans à construire avec la troupe du Théâtre du Soleil, qu'Ariane Mouchkine lui a confiée, et elle a eu raison, parce que ça doit être l'un des plus grands artistes aujourd'hui dans le monde, Robert Lepage. Mais donc, ils ont été complètement interdits de travailler cet été, et du coup, il a renoncé, ils ont renoncé. Et ce que l'on voit, c'est un travail fait en un mois et demi qui n'a pas les qualités habituelles du travail de Robert Lepage, ni sa hauteur de vue.
D'où la lettre de notre auditeur, peut-être au début.
Oui, donc on comprend que certains spectateurs puissent être déçus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un geste formidable de résistance, une réplique à cette controverse, et rien que pour cela, moi je dis bravo à tous les acteurs embarqués, bravo à la manière dont ils ont rafistolé un spectacle de 2h30 alors que ça devait être un triptyque de 9 heures de spectacle.
Fabienne ?
C'est difficile de faire l'impasse sur la controverse parce qu'elle est au cœur même de ce que raconte le spectacle, puisque ça raconte aussi le meurtre de 49 indiennes par un serial killer dont l'héroïne veut faire le portrait. Et déjà, ça se passe à Vancouver au début des années 2000, déjà des Indiens s'opposent à ce qu'elle fasse le portrait de leur fille sous prétexte qu'une artiste européenne n'a pas le droit de peindre des indiennes, on leur vole leur identité. Donc c'est au cœur même de la pièce. Et je trouve que ça gêne un peu l'écriture, on sent le page embistrouillé dans cette histoire, mais quand même il y a un souffle.
Embistrouillé ?
Oui, embistrouillé. Ah,
j'aime bien embistrouillé.
J'invente un mot. Et il y a parfois des maladresses, mais il y a tellement d'émotions, de générosité dans cette manière de fabriquer du théâtre avec des récits épiques, des récits qui pourraient être des séries télévisées. Et puis, il y a ces acteurs du soleil qui sont prodigieux, qui transportent les décors. Moi, je trouve que c'est plus un spectacle d'Ariane Mouchkine que de Robert Lepage. Ah,
on sent qu'elle est là, oui.
Allez, un mot, Jacques.
Ben moi, une fois de plus, pas d'auteur, résultat d'une écriture collective, donc un propos très dilué, une langue très très pauvre, et un spectacle qui a quelques images très fortes et très belles. Vincent a eu raison de citer la scène du canoë, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Je suis tout à fait de l'avis de notre
scène dans la forêt, tout
auditeur.
Ça, c'est magnifique.
Je trouve qu'il a entièrement raison. Il y a beaucoup de déplacements inutiles, il y a beaucoup de tableaux où on apporte une foule d'objets pour des petites scènes de 5 minutes. C'est pas très bien foutu, et je pense qu'une fois de plus, il faut un auteur. Quand Ariane Mouchkine fait une écriture collective, elle fait appel ensuite à Hélène Cixous pour remettre ça un peu en ordre. Là, il semble que ce soit un dramaturge nommé Michel Nadeau qui s'en soit chargé. C'est très insuffisant. C'est pas un bon spectacle.
Kanata, c'est au Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine, et c'est signé Robert Lepage. Et là, vraiment, 3 minutes pour évoquer le faiseur du théâtre. C'est dommage. Alors voilà un auteur, tiens, Thomas Bernhardt. Toujours aussi corrosif, et c'est monté au Déjazet par Christophe Perton avec le grand André Marcon dans le rôle de Bruscon, ce faiseur de théâtre qui, le jour où on tue le cochon, arrive avec femme et enfant dans une auberge de province pour jouer le soir l'œuvre de sa vie, une œuvre historique qui s'appelle La Roue de l'Histoire. Évidemment, rien ne va, il va râler, tempêter. C'est à la fois sinistre et très drôle, et vous me dites vraiment très très rapidement, Jacques.
Ben je trouve que passer toute la soirée avec un personnage bruscon qui est brusque et con, c'est difficile. Thomas Bernhardt déteste ce personnage. Il nous dit cet acteur est un crétin, il est suffisant, il est cabot, il est odieux avec sa femme et ses enfants. Eh bien, et avec le malheureux aubergiste qui est chargé de lui apporter des victuailles, je vois pas pourquoi je passe mon temps à ça. Il y a toujours ce côté sadique chez Thomas Bernhardt qui veut.
Mais tout son théâtre est fondé là-dessus.
Mais justement, j'aime pas beaucoup son théâtre.
Ah, moi, je trouve ça magnifique.
Je pense qu'on n'est jamais un grand auteur quand on n'aime pas du tout ses personnages et quand on ne les sauve
mais
à aucun moment.
Il aime ce personnage.
Je hais.
Mais non, il le sauve. Parce qu'il a tous les défauts. Il vitupère, il éructe, il est méchant,
beaucoup,
il tyrannise sa famille. Il ressemble comme un frère à Thomas
si
Bernhardt.
Je ne sais pas si j'aurais aimé passer une heure et demie ou plus avec Thomas Bernhardt.
Il consacre sa vie au théâtre. Il fait des tournées minables dans des salles désertes.
Et il va quand même. C'est beau,
Jacques, d'aimer son art à ce point-là. Vous devriez aimer le métier de critique autant que le personnage. Le personnage de Bruscon aime le théâtre parce que il se donne complètement et ça c'est magnifique, et Marcon est jubilatoire,
mais
il est Marcon drôle,
est un
il
grand
est méchant
acteur, mais ça rend pas le
moi je suis absolument d'accord avec Fabienne, c'est magnifique et même un acteur raté, c'est un grand acteur. Même une vie.
Si on l'aime, oui. C'est une grande vie. Quand c'est Tchekhov qui en parle, oui.
Et il l'aime, il l'admire. Il l'admire de se dévouer complètement à son art.
Il l'aime.
Vincent,
vous êtes mignon à regarder. Non, moi, je suis de l'avis de Jacques. J'ai pas du tout été heureux. Je suis ressorti en ayant l'impression d'avoir perdu mon temps, alors que d'habitude j'aime Thomas Bernhardt. J'ai l'impression que c'était la pièce de trop.
Mais connaissais quand même cette pièce.
Je l'ai jamais vue. Non, je l'avais jamais vue. Je trouve qu'il en fait
pièce,
trop.
Très
effectivement, il n'y a que de la
très
haine.
Souvent joué, mais pas
la haine de l'Autriche, la haine du théâtre, sa haine de la famille, sa haine du fils, etc. Du coup,
c'est tout le
Marcon.
Tout le théâtre de Thomas
la haine, Bernhardt. L'air de cette haine. Bien sûr.
Avec des personnages en plus qui n'ont aucun intérêt, rien à jouer. J'en étais malade pour eux.
Si la fille, le fils,
non, ils ont rien.
formidable. Enfin, au contraire, ils sont martyrisés. C'est drôle comme tout.
Ce sont des mimes. Ah, oui, c'est douloureux pour
ça
eux.
Ça fait rire quand on martyrise.
Ça se passe au oui, jazzé, c'est drôle, très beau. Fabienne.
C'est moi, j'aime pas qu'on martyrise le spectateur.
C'est le faiseur.
Oh. Je n'étais pas martyrisé du tout. Hein.
Le faiseur du théâtre, c'est donc de Thomas Bernhard. Et c'est au théâtre des Jazets. Allez, un conseil positif pour terminer cette émission. On va commencer avec Fabienne.
Une petite reprise, Jean-Michel Ribes, Sulky Sulcu, deux personnages réchappés de musée au musée bas qui sont au petit Montparnasse et qui sont très drôles, c'est facétieux, absurde, c'est de l'humour à la Ribes, à la fois élégant et caustique. Et puis un Bérénice que j'ai vu dans une mise en scène d'Isabelle Lafont qui va tourner bientôt, qui est un travail à la table, Jacques, un travail d'écriture autour de Bérénice qui est condensé, cassé et qui est magnifique, qui est bouleversant. La pièce est toute simple, toute pure, elle lui redonne sa radicalité de rupture amoureuse incandescente et tragique.
Jacques.
J'ai vu au Théâtre de la Colline une pièce qui m'a vraiment bouleversé. Et ça s'appelle « Insoutenables longues étreintes ». C'est une pièce d'un auteur russe contemporain, Ivan Viripaev. C'est mise en scène par Galine Stoev. C'est probablement un des textes les plus étonnants que j'ai vu depuis très, très, très longtemps. C'est une écriture,
un travail aussi,
une écriture nouvelle, un travail magnifique. Les acteurs, les quatre acteurs sont formidables. Et le sujet est très étonnant. Ça peut paraître un peu niais. C'est des gens qui ont des voix intérieures, qui en fait ce sont des voix d'extraterrestres et qui les aident les uns et les autres à traverser l'enfer. C'est magnifique. Mais absolument magnifique. C'est drôle par moments.
Ils ont les aliens à l'intérieur.
On voit pas d'aliens vraiment. On n'entend que des voix. Ce sont des voix intérieures. Ça n'est pas Star Trek.
Mon conseil, c'est pour quelqu'un qui se fait rare et dont, à mon avis, il ne faut pas manquer le passage au Théâtre de l'Atelier à 19h cette fois. Et c'est jusqu'au 3 mars. Et c'est évidemment Samy Fray qui dit « Premier amour » de Samuel Beckett, un monologue d'un homme qui raconte sa rencontre sur un banc avec une prostituée, Lulu. Texte, alors là, voilà un texte sinistre et en même temps très drôle et que Samy Fray avait créé en 2009 et qui reprend au Théâtre de l'Atelier, si vous avez le temps, allez voir cet homme magnifique et qui, encore une fois, se fait plutôt rare. Armel.
Eh bien, j'avais retenu le même spectacle que Jacques, mais j'ai autre chose qui est très sympathique, qui s'appelle « Qui va garder les enfants ?» Ça vous rappelle une phrase célèbre d'un homme politique. Et c'est un spectacle de Nicolas Bonneau et Fanny Chériot. Il a fait une vraie enquête, ce Nicolas Bonneau, sur la place des femmes en politique. Et c'est très joli, c'est très simple, très fin. Ça se donne au Théâtre de Belleville jusqu'au 31 mars.
Et enfin, le conseil de Vincent.
On a parlé de grands comédiens, de grandes comédiennes ce soir, de grandes comédiennes.
J'aime bien ta manière de faire une synthèse.
Stéphane, j'aime bien faire une conclusion. Peu, oui. Stéphane Pezra, Emmanuel Berco. Et moi, il y a une comédienne que j'aime beaucoup qui était dans Un village français. Je crois qu'elle jouait Suzanne. C'est Constance Dolé. Et Constance Dolé arrive seule en scène. Pas tout à fait seule, d'ailleurs.
Pas seule. Hein,
avec une pièce britannique de Denis Kelly qui s'intitule Girls and Boys. Ça se passe au théâtre du Petit Saint-Martin. Elle fait venir des spectateurs, d'ailleurs. Vous avez la possibilité d'aller dîner avec elle parce qu'elle vous offre le repas.
Il n'y a pas l'air d'avoir à manger c'est sur le principe, plateau.
Hein. On peut manger des... N'y allez pas pour ça. Hein. Manger des fruits et boire du vin. Mais surtout, elle nous raconte sa vie d'une manière au départ très légère, très joyeuse, avec pas mal de culot. Et puis, crescendo, on s'avance vers quelque chose d'extrêmement tragique. Je ne dirai pas, évidemment, la chute. Et elle est sidérante d'intelligence, de présence. Elle est droite. Elle tient ce rôle pendant une heure et demie. Constance Dolé dans Girls and Boys. C'est, pour moi, un bel événement théâtral de début d'année au théâtre du Petit Saint-Martin.
Tous ces conseils et les dîners qui vont avec, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Armel Elio, Fabienne Pascaud, Jacques Nerson et Vincent Josse pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française. À la technique, et je les remercie, il y avait Stéphane Desmond, Valentin Azan-Zielinski, ainsi que Nicolas Depagraf. La réalisation était signée Xavier Pestugia, et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 7 février, ici même, au Théâtre de l'Alliance Française, 101 Boulevard Raspail, à Paris, dans le 6e, pour deux émissions, l'une qui est la vôtre, puisqu'elle est consacrée à la remise du 29e prix des auditeurs du Masque et la Plume. et l'autre à l'actualité du cinéma dans une semaine. Donc on parle de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.